Vivre en Comminges, l'émission de radio.
Vivre en Comminges, l'émission de radio.
Sur les ondes.
Vivre en Comminges.
Sur les ondes de Radio Coteau.
104.5
ou 97.7
FM.
Et en direct sur le web.
Vivre en Comminges, l'émission de radio.
Tous les premiers mardis du mois.
À 18h.
Actu local,
interview,
agenda,
musique.
Vous saurez tout sur le Comminges.
Il était une fois.
Le fou, ok, pas assez pour moi.
Terre-mer.
Un documentaire d'Élise Andrieux et d'Ify Mariani.
Quand on vous dit en Colombie, il y a la plus haute montagne du monde en bordure de mer. La plus haute montagne du monde en bordure de mer, 5875 mètres à 38 km de la mer des Caraïbes. Je m'appelle Eric Julien, j'ai 25 ans, j'étais censé être le guide d'une petite équipe de 10 personnes. J'ai eu un œdème pulmonaire, de l'eau dans les poumons. Et le guide a eu piteuse allure quand il a eu son œdème à 5000 mètres. La première piste, elle est à 3 jours et demi de marche. Et encore, c'est une piste, il n'y a personne. Comment je vais me sortir de cette situation? Et j'ai eu la chance qu'un père et son fils passent avec des mules. Et ils m'ont nourri. Et ils m'ont soigné. Et je pense qu'ils vont sauver la vie. Je me rappelle avoir vu des gens avec des visages sombres. Le brillant des yeux, enfin le souvenir que j'en ai, les yeux qui brillaient, la présence, et surtout la force avec laquelle il me tenait un propos auquel je ne comprenais strictement rien. Si ce n'est un petit bout, parce que ça avait été un peu traduit en espagnol, on nous a volé nos terres, faudrait nous les rendre. Donc je me suis engagé, quand ils m'ont demandé de partir, à les aider à retrouver leurs terres.
C'était qui ces gens-là?
C'est exactement dans cette attitude que j'étais, mais c'est qui ces gens-là?
Nous sommes des Indiens Kogi. Des fils de la terre, habitants de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombie.
En compagnie de frères et sœurs vivant sans souci. Maintenant je suis seul, tout le monde s'est enfui. Lorsque sont arrivés les promoteurs et la folie, ceux-là ont coupé les arbres, décimé la forêt, creusé des fossés, comblé, puis goudronné. Et je dois dire, sans déménager, je vis au centre des cités. Et je dois dire, il n'y a plus de fruits à cueillir dans la forêt. Et je suis révolté, révolté de voir les déserts que les hommes font jour après jour. Et je suis désolé, désolé de devoir être complice pour subsister à mon tour. Car c'est chaud, j'ai vu des hommes fuir devant d'autres hommes. J'ai vu l'écosystème détruit au nom du progrès. Oui, c'est chaud, j'ai vu des hommes qui chassaient d'autres hommes. J'ai vu la civilisation installer ses méfaits. pour l'Afrique. Évitant du regard la marée noire de l'Atlantique. Un ancien m'a fait asseoir, a calmé ma panique. Puis sont arrivés les mineurs et les dérives. Ceux-là ont fouillé la terre aussi profond qu'ils pouvaient. Voler des richesses, les transformant en fumée. Et je dois dire, sans me fatiguer, je vais au centre des cités. Et je dois dire, il n'y a plus d'arbres qui poussent dans la forêt. Et je suis révolté, révolté de voir les déserts que les hommes font jour après jour. Et je suis désolé, désolé de devoir être complice pour subsister à mon tour. Car ce jour j'ai vu des hommes fuir devant d'autres hommes. J'ai vu des enfants exploités au nom du progrès. Oui, ce jour j'ai vu des hommes qui battaient d'autres hommes. J'ai vu la fraternité bafouée à coups de fouet. J'essaierai de me retrouver au Tibet, pour prendre un bol d'air pur au milieu des sommets. J'aurais passé la journée à rechercher un coin isolé que nous n'aurions pas pollué. Mais il faut apprendre à vivre sans boire ni manger, sinon on ne veut pas mourir empoisonné. Et je dois dire que sans me bouger, je vais périr dans cette cité. Oh, je dois dire, malheureusement, il n'y a ni bois ni forêt. Et je suis révolté, révolté de voir les déserts que les hommes font jour après jour. Et je suis désolé, désolé de devoir être complice pour subsister à mon tour. Car ce jour j'ai vu des hommes fuir devant d'autres hommes. J'ai vu l'écosystème détruit au nom du progrès. Oui, ce jour j'ai vu des hommes qui chassaient d'autres hommes. J'ai vu la civilisation installer ses méfaits. Oui, ce jour j'ai vu des hommes fuir devant d'autres hommes. J'ai vu des enfants exploités au nom du progrès. Oui, ce jour j'ai vu des hommes qui battaient d'autres hommes. J'ai vu la fraternité bafouée à coups de fouet. Oh, ce jour j'ai vu des hommes fuir devant d'autres hommes. J'ai vu des innocents mourir à cause du progrès. Oui, ce jour j'ai vu des hommes qui tuaient d'autres hommes. Et j'ai vu Babylone, ça me rend triste à pleurer. Oh, ce jour j'ai vu des hommes. Ce jour j'ai vu des hommes.
Ça y est, nous y sommes. Nous voilà dans le monde des Indiens Kogi de Colombie, une société où les jeunes sont élevés en harmonie avec la nature, dans l'amour de la vie, une démocratie solidaire où la pauvreté est absente. Aujourd'hui, ils tentent de préserver leur mémoire et leur équilibre. C'est suite à une rencontre que vous avez pu entendre avant. Sauvé par la mort, par les Kogi, Éric Julien s'est lancé dans un pari un peu fou, racheter les terres qui ont été volées aux Indiens avec son ami colombien Gentil Cruz. Dépossédé par les colons, les pilleurs de tombes, les narcotrafiquants et les guérillas. Éric Julien décide de créer l'association Chendukua pour collecter des fonds, donc pour le rachat de ces terres. En 2004, il y avait déjà près de 1400 hectares de restitués à leurs propriétaires légitimes. C'est pour se préserver et préserver leur vision du monde, leur mode de vie, qu'ils restent loin de la modernité bruyante et agressive qui est pourtant toute proche. Ils ont une vision cosmique qui relie l'homme à la terre et à l'univers, comme l'était celle de tous les peuples racines, pour qui l'homme n'est qu'une des composantes d'un tout. Le monde est en train de perdre une de ses plus grandes richesses, le savoir. Et c'est pour cette raison que les Kogi continuaient à travailler sur ce savoir et cette compréhension de la vie. Des lois naturelles, mais aussi ses origines. La mémoire, elle ne s'écrit pas, elle s'exerce. Elle se vit chaque jour. Alors pourquoi ne pas changer nos rêves et penser que l'autre peut nous enrichir tout au long de la vie? Le chemin des Kogis est sûrement le bon. Leur empreinte est tout ce qu'il y a de normal. Chaque chose est à sa place. Les mêmes gestes, simples et efficaces, depuis plus de 4000 ans, pour que l'harmonie puisse continuer son chemin sans argent. Alors je vais vous parler un petit peu de cette histoire. Comment les Kogis ont-ils réussi à traverser cette histoire sans tomber dans la modernité? Alors il y a une des premières raisons, c'est qu'ils ont refusé la roue. La roue, c'est la vitesse. Imaginez notre monde, notre société sans roue. Il n'y aurait pas de voiture, pas d'avion, pas de train. Enfin, tout serait beaucoup plus lent. Et les Kogis l'avaient bien compris depuis très longtemps. Ils ont donc refusé ce système. Ils se déplacent à pied ou avec des mules. Aujourd'hui, ils sont donc à 3000 mètres d'altitude parce qu'ils ont été repoussés tout en haut dans le froid. Et ils essayent donc de garder ces valeurs ancestrales en vivant de façon calme. Il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de police, pas de juge, pas de loi, pas de contrat. Imaginez-vous une telle société. Oui, elle existe, pas très loin de chez nous. Et l'association Chendukua la soutient fortement. Éric Julien a donc décidé de refaire vivre cette région en étant à l'écoute des Indiens. Ce n'est pas Éric Julien qui a décidé de quoi que ce soit, ce sont eux qui ont décidé qu'il y aurait une association en France. C'est un concept que je trouve très intéressant parce que ce n'est pas une façon de faire habituelle pour les sociétés modernes qui en général imposent leur vision aux autres sociétés. Là, on est dans un cas de figure qui est, je trouve, très développé au niveau de l'esprit. Il y a donc chez les Kogis différentes choses de vie. Vous avez notamment les mamus. Qui sont les mamus? Alors les mamus, ce sont des sages, si on peut dire, en quelque sorte. Ce sont des hommes, principalement. Et ils ont donc un apprentissage qui est très, très long. Il dure 18 ans. En fait, les femmes qui sont donc choisies par les mamus seront enceintes d'un mamu. Ce qui veut dire que ces femmes seront mises dans un endroit à part, elles auront une alimentation spécifique tout au long de leur grossesse et seront donc accompagnées par les mamus. Ensuite, à la naissance, une autre alimentation leur sera fournie. L'enfant donc qui naît ne verra pas le jour pendant des années. Il va rester à l'intérieur de la pénombre. Ça paraît un peu fou pour nous, Européens, mais c'est la réalité. Donc, ces enfants donc, vont rester pendant des années et des années et des années à l'intérieur d'une nuée et ne verront le jour que lorsqu'ils seront prêts, effectivement, pour sortir à l'extérieur. À ce moment-là, ils auront toutes les connaissances nécessaires. Ils connaîtront chaque arbre, chaque plante, chaque animal. Ils connaîtront tout de la nature sans ne l'avoir jamais vu. Peut-on croire à une chose pareille? Vous qui êtes ici, Benjamin,
peux-tu croire? Pas du tout, pas du tout.
C'est une connaissance.
Christophe,
tu blagues, tu blagues.
passe 18 ans dans le noir.
Il passe effectivement des années dans le noir. Et ce sont donc les mamus qui le renseignent, donc tout ce qu'il y a à l'extérieur.
Du coup, il y a un mamu maître qui est là dans la pénombre avec l'enfant apprenti mamu.
L'enfant, oui, il est toujours entouré.
D'accord.
Toujours entouré, il n'est jamais seul. Il y a toujours des mamus près de lui.
Il n'y a qu'un seul apprenti mamu?
Pas forcément, non. C'est en fonction des choix des mamus sur le nombre de futurs mamus qu'il va y avoir. Ce sont toujours eux qui prennent la décision.
D'accord.
Et c'est effectivement, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais c'est une histoire, ça me paraît pas vraiment très vrai, quoi. Hein. Pourtant, c'est bien la réalité, c'est bien ce qui se passe chez les Indiens Kogi. Hein? Angelo, qu'en penses-tu, toi, à y réfléchir de plus près? Tu te vois quelques années comme ça enfermé?
Bah, j'espère qu'ils sont bien, hein. Ça fait penser aux pauvres enfants qui sont enfermés dans une cave pendant toute leur enfance. Là, il y a des histoires comme ça affreuses.
Oui, mais bon, cela,
c'est pas le cas.
C'était des enfants qui n'étaient pas sages.
Oui.
Hein? C'était peut-être ton cas quand tu étais petit. Peut-être que tu n'aurais pas été choisi comme mamu, mais tu aurais été mis dans le noir quand même, quoi.
Et du coup, si je comprends bien, c'est une transmission purement orale, alors.
Une transmission purement orale, exactement.
Oui, leur idée, c'est de pouvoir reconnaître un arbre, un animal. Effectivement,
il y a quelque chose qui nous dépasse donc dans cette façon de faire, de vivre. Oui, moi-même, ça me pose question. Mais je crois qu'effectivement c'est ce qu'ils font et c'est ce qu'ils réussissent, puisque ça fait quand même des milliers d'années qu'ils vivent comme ça, et ils sont directement liés avec l'ancienne société qui était les Tairona, donc les précolombiens, donc et qui ont été fortement agressés, si je puis dire, plus que ça même, par les conquistadors.
D'accord. Ouais.
Ils leur avaient ouvert les bras, ils les ont accueillis avec des cadeaux, et au départ ça s'est relativement bien passé, et malheureusement par la suite le chef, disons, des conquistadors a quitté les lieux, et c'est un autre chef qui est venu, et lui, il était plutôt agressif, et il a décidé d'exterminer les Tairona.
Merde.
Oui, bah, tu peux le dire, mais c'est ce qui s'est passé. Vous avez tous un peu entendu parler donc de l'histoire des conquistadors et des dégâts qui ont suivi, quoi. Donc nous avons donc ces Kogi qui, eux, par contre, sont bien là aujourd'hui, près de nous. Je vais d'ailleurs un peu vous parler des Indiens que j'ai rencontrés. Donc c'est aussi suite à cette rencontre que je me suis vraiment intéressé à ce peuple, et donc à l'association Chendukua, qui œuvre depuis 1997, si je ne me trompe, hein, parce que je n'ai pas toutes les dates en tête.
D'accord.
En tout cas, je sais que Eric Julien avait 25 ans, et ça doit donc être environ 30 ans déjà, quoi, qu'il y a un lien entre les Kogi et Eric Julien.
D'accord.
Donc il y a eu de nombreux livres qui ont d'ailleurs été écrits par Eric Julien. On vous donnera les coordonnées plus tard. Donc en 2004, j'étais membre d'Alsace Nature, et Alsace Nature soutient donc l'association Chendukua pour l'organisation de ce qui peut se passer sur Strasbourg. Donc j'y étais invité. Et j'ai donc passé la journée là-bas avec les Indiens, la conférence, et tout ça, ça a terminé donc chez une amie. Et nous avons donc mangé avec les Indiens Kogi. C'était un peu quelque chose. Et d'ailleurs, il y avait également Eric Julien, bien entendu, et son ami colombien Jean Tigrouz, qui faisait donc à l'époque le lien entre la Colombie, donc les Indiens, et la France, l'association Chendukua.
Ils doivent avoir un rapport à la nourriture très intime, puisque tu disais tout à l'heure que la femme enceinte qui allait engendrer un mamou, c'est ça ?
Un mamu.
Avait toute une alimentation spécifique le temps de la grossesse, et encore après, l'alimentation changeait. Donc est-ce que tu as pu remarquer, en mangeant avec eux, différentes formes de tradition, de mise en place, de rapport à la nourriture, de rituel ou quelque chose comme ça.
Disons là, ils sont pas chez eux, comme on dit. D'accord. Mais effectivement, il y a certains aliments dont ils ne voulaient pas, notamment le pain.
Ah oui.
Et moi, à l'époque, je faisais du pain. Ah. Et j'avais ramené du pain. Et j'avais mis sur la table et donc on m'a dit que les coquilles ne mangent pas de pain. Alors je me suis expliqué, j'ai dit oui, bon, d'accord. Bon, mais ça c'est pas du pain que j'ai acheté dans une boulangerie, c'est du pain que j'ai fait moi-même chez moi, il est bio, etc. Donc on leur a expliqué et ils ont mangé le pain que j'avais fait chez moi. Les Indiens, j'étais très 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 heureux de les voir manger le pain que j'avais fait. C'est quand même quelque chose, quoi. On rencontre pas tous les jours des Indiens. Hein.
Ils ont apprécié alors.
Ils l'ont trouvé plutôt bon. Oui. Mm. C'est vrai qu'il était il était bon. Ouais. Je vais pas dire le contraire. Donc j'ai passé donc de très très bons moments. Et malheureusement, suite aux conférences, puisqu'elle s'est terminée le week-end d'après en Allemagne à Karlsruhe, donc les Indiens Kogi, Gentil Cruz et toute l'équipe des Colombiens sont repartis. Et en arrivant à l'aéroport, Gentil Cruz a été kidnappé.
Ah oui.
Il a disparu pendant plusieurs mois. Et il a été retrouvé donc l'année suivante, en 2005, au mois de février, il avait été assassiné par les paramilitaires. Voilà un peu un côté triste donc de cette histoire et de cette rencontre. Et l'année suivante, en 2005, donc les Indiens sont revenus. Et là, c'était plus du spectacle que de la conférence. Et donc, j'ai pu à nouveau parler avec Eric Julien des problématiques qui étaient liées au Kogi et par rapport...
Ça m'intrigue, cette histoire d'assassinat. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette conférence qui pouvait...
En fait, non, ce n'est pas l'histoire de la conférence. C'est-à-dire que comme Gentil Cruz, il était très actif pour aider les Indiens à retrouver donc notamment de leur terre, etc. Ça pouvait déranger certaines personnes qui étaient là-bas, puisque la Colombie, c'est quand même un pays qui est relativement dangereux, quoi. Hein, narcotrafiquant, etc. Même l'armée régulière et tout ça, c'est assez compliqué, quoi.
Donc oui, ces conférences, c'est aussi un moyen d'échange, quoi, de partager des choses. Il y a cette association qui essaye de leur acheter des terres en Colombie. Et leur venue, c'est aussi une transmission de savoir. Et
C'est une transmission de savoir, mais c'est surtout pour mettre un questionnement face à nous-mêmes, parce que les Indiens sont à l'écoute et donc on peut leur poser tout un tas de questions qui nous intéressent nous. Ensuite, il y a différents types de réponses qu'on peut aussi bien souvent imaginer, mais là c'est du concret, c'est du réel, c'est eux qui répondent à leur façon et ils expliquent pourquoi est-ce qu'ils sont venus, parce que les Indiens Kogi, comme je vous l'ai dit, n'ont pas la roue, ne cherchent pas à se déplacer, ne cherchent pas à aller ailleurs, ils sont bien chez eux. S'ils doivent se déplacer, c'est que forcément il y a une raison qui va les faire déplacer. Et quand ils sont venus en 2004, c'est pas comme ça un truc qui est arrivé. Ils ont d'abord longtemps réfléchi avant de dire oui pour venir sur le sol européen. Ça ne s'est pas fait comme ça très facilement, quoi.
Pourquoi ont-ils choisi la France ?
En fait, c'est Eric Julien est français. D'accord. Et donc l'association existait déjà en 2004, puisque ça date de bien avant. Donc il y a eu donc cette relation entre Eric Julien et les Indiens Kogi, donc pour continuer à permettre à l'ensemble d'aller vers l'avant et d'avoir des projets. Parce que effectivement, l'association Tsendukwa propose beaucoup de projets. Il n'y a pas que des restitutions de terres. Hein. Il y a aussi d'autres choses. Et sur la demande des Indiens, nous avons également l'école de la nature et des savoirs, Angelo.
Oui, et nous avons un de ses représentants et formateurs, hein, peut-être qui va nous expliquer un petit peu ce que c'est que l'école de la nature et des savoirs. Nous avons donc au téléphone Jean-Louis Pétoureau. Bonsoir Jean-Louis.
Bonsoir.
Bonsoir. Et donc, on voudrait en savoir un peu plus donc sur cette école de la nature et des savoirs.
Alors, j'ai pas eu l'émission au début, donc je vous en avais sûrement déjà parlé, mais l'histoire de l'école de la nature et des savoirs a démarré donc avec la rencontre d'Éric Julien avec les Indiens Kogi, donc en 85. Bon, il y a eu plein de moments où il est revenu là-bas, où il a travaillé avec Rentil Cruz, dont vous venez de parler. Et Rentil avait dès le début eu l'idée que un jour il faudrait faire dialoguer ce monde Kogi qui est lié avec qui a toujours été lié à la nature, qui a toujours vécu dans la nature sur leur territoire, et notre monde dit moderne qui est de plus en plus hors nature, hors sol. Donc deux visions du monde très différentes. Et donc l'idée de créer l'école naturelle des savoirs, au départ, c'était l'idée de la créer là-bas, en Colombie. Et après la mort de Rentil, les Indiens lui ont dit « Mais le message, il est à faire passer chez toi, en France. » Donc c'est là-bas qu'il faut créer l'école naturelle des savoirs. Voilà comment est née l'école de la naturelle des savoirs en 2006. Donc quelques temps après la disparition de Rentil. Voilà, donc il y a eu, avec la venue des Kogi plusieurs fois en France, une première construction d'une nuée, qui est leur temple, un petit peu leur lieu de réflexion, de réunion. Et ensuite, l'école à nature et savoir a acquis du terrain. Et moi, je suis arrivé en 2009 dans le projet. Et à l'époque, j'arrivais avec des envies de transmettre l'agroécologie et la permaculture. Et quand la première discussion avec Éric Julien sur ce que je savais à l'époque de la permaculture, il me dit « Mais c'est comme ça que les Kogi travaillent, c'est comme ça qu'ils vivent. » Et donc, voilà, ça a fait tilt tout de suite. Voilà. Et donc, depuis 2009, je suis à l'école Nature et Savoir. Moi, plus particulièrement chargé de la partie permaculture, mais dans ce lieu-là, on organise aussi des stages qui s'appellent Immersion Nature. Donc, c'est des stages qui amènent les gens à se reconnecter avec la nature, se reconnecter avec eux-mêmes déjà, et à apprendre à vivre en collectif, et selon les principes que nous enseignent les Kogi. Voilà.
Dans ces stages, il y a l'art de tisser sa vie, hein, c'est ce que j'ai trouvé. Hein, il y a les passeurs de nature, l'immersion nature, au fil de la famille. Donc ça, c'est principalement autour de ce qui concerne des familles. Et voilà. Piloter une transition à la ferme. Là, donc ça serait un mouvement pour aller vers le bio.
Oui. Alors, donc ça, c'était les premiers stages, immersion nature. Art de tisser sa vie. Ensuite, on a organisé des stages de permaculture, de découverte de la permaculture, des stages complets de permaculture sur 12 jours avec des formateurs internationaux. Et puis, petit à petit, à l'école Nature et Savoir, il y a eu deux grosses arrivées en 2013. C'est une ferme traditionnelle ici du Diwa, d'élevage de brebis, qui s'est tourné vers nous et nous a dit voilà, nous on a une ferme à transmettre et les idées d'agroécologie et de permaculture nous intéressent, est-ce que vous êtes prêts à nous accompagner dans la transition vers une ferme agroécologique et permacole. Donc c'est un des gros chantiers aujourd'hui de l'école Nature et Savoir, et on organise des stages. Il y avait un stage permaculture qui a eu lieu qui a fini il y a 15 jours. Et la deuxième autre grosse idée et chantier qui s'est ouvert aussi en 2013, c'est une école primaire, pareil, à partir des principes du vivant, c'est ce qui guide la pédagogie de cette école primaire. Alors moi-même, j'interviens deux après-midi par semaine au jardin avec des enfants.
Oui, parce que j'ai vu un peu le programme, donc il y a des cours d'espagnol, des jeux coopératifs, donc le jardinage, des créations, des poésies, du pain, donc les enfants sont très actifs.
Voilà, très, très actifs, et le thème de début d'année, cette année, c'était les peuples premiers, et ils vont recevoir la semaine prochaine les trois Indiens Kogi qui arrivent en tournée, là, pour... en tournée en Europe pour trois semaines, et ils vont débuter un peu leur séjour par une conférence au centre agroécologique des Amanem, et ensuite par une visite à l'école Caminando. Et donc des enfants préparent ça activement, ont étudié un petit peu d'où ils arrivaient, etc., etc. Et ils suivent aussi le voyage du voilier Zigonechi qui fait la transat et qui ramène les trésors qu'on leur a pillés il y a 500 ans. Et une partie des trésors a été retrouvée en Belgique et ils font 500 ans après, ils font le voyage retour.
Donc à ce sujet, apparemment, c'est une collectionneuse qui a décidé de restituer ces objets. Est-ce que les Kogi sont au courant de cette chose?
Alors, je sais pas, moi, comme je suis pas dans la structure Tianoukoua, je suis pas en détail tout ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, mais en tout cas, elle a appelé Eric Julien, et puis elle a dit, moi, je veux faire un geste et renvoyer ça. Alors, je suppose que eux, ils ont accepté que ça revienne là-bas, donc il y a dû y avoir des discussions avec nos correspondants qui sont là-bas, de Tianoukoua, etc. Il y a dû y avoir des échanges avant qu'ils acceptent que ce trésor revienne chez eux.
Oui, mais ça, c'est une très très bonne nouvelle pour les Indiens et pour tout le monde d'ailleurs. Hein.
Tout à fait.
Oui, bon, parce que on a un peu le projet Sigoneshi. Hein, on sait un peu ce qui se passe. Hein. Je ne sais pas, vous avez écouté l'émission là, comme j'avais déjà rencontré des Indiens Kogi et Eric Julien.
Alors, j'ai entendu un petit 10 minutes avant ou 5 minutes avant que vous m'appeliez. Donc je suppose que vous avez pas mal débattu, donc je ne vais pas y revenir. Dans mon intervention, je voudrais parler d'un stage qui se fait très près de chez vous, qui a lieu du 20, ça y est, je sais plus la date, du 23 octobre au 26 octobre.
Oh non, c'est ça.
Donc c'est un stage d'approche, d'initiation à la permaculture qui va avoir lieu donc à Casteljaloux, en Lot-et-Garonne. Et donc ce stage, moi je suis originaire du sud-ouest, donc j'ai de la famille là-bas, et puis c'est par hasard que j'ai rencontré une personne qui a un lieu de 5 hectares qu'elle veut aménager autour d'une ferme agricole, d'une petite production agricole, d'hébergement, commerce du bio, un centre de thérapie douce, etc. Elle a tout un projet, et je lui ai dit, on peut organiser des stages sur le thème de comment faire vivre un lieu avec ses interconnexions, parce que la permaculture, c'est comme... c'est un petit peu ce... reproduire les écosystèmes naturels qu'on retrouve dans la forêt, etc., et que font bien fonctionner les Indiens Kogi. Eux, ils sont restés connectés depuis toujours, et bien sûr, ils connaissent pas le mot permaculture, mais c'est des permaculteurs en puissance depuis tous les temps. Voilà. Donc c'est le lien direct. Nous, quand on anime des stages permaculture, il y a aujourd'hui plein de stages qui sont organisés en France, et nous on apporte toujours la touche Kogi dans notre approche, en disant voilà, on a des maîtres en permaculture qui nous apprennent comment vivre ensemble, comment travailler avec la nature et pas contre la nature, etc., etc.
Très bien. Et donc vous avez, il y a un nombre de participants limité, c'est-à-dire vous avez 15 personnes donc que vous pouvez prendre.
Alors j'ai pas entendu la question. J'ai du mal à entendre.
D'accord. Donc au niveau des participants, vous prenez donc 15 personnes maximum pour ces stages de permaculture.
Voilà, c'est un stage donc ouvert au grand public. Et oui, 15 personnes maximum. Alors, l'hébergement se fait sous tente ou en cas d'intempérie, on va trouver de quoi se loger chez l'habitant. Parce qu'on va travailler, on va être en fait sur le lieu même du projet. Et pour l'instant, il y a un mobilhome, il y aura des grandes tentes ou des grandes pour se mettre à l'abri quand même. Et donc sur ces 3 jours, on peut pas faire le tour de ce qu'est la permaculture, mais c'est juste une approche. Et surtout, on le lie beaucoup à ce qu'on voit sur le terrain, à comment on va organiser ce lieu, comment. On fait travailler les stagiaires sur une vision holistique, on va dire, de ce que les personnes qui nous invitent là-bas autour de leur projet, quoi. Ils nous donnent un peu quelques clés de ce qu'ils ont envie de faire, et puis on va travailler, faire une projection, alors très simple, parce que ce stage de 3 jours, il va être préparatif à un stage plus complet de 12 jours qui devrait avoir lieu au printemps prochain, mai ou juin 2016.
Pour toute cette information, très très intéressante, est-ce qu'il y a d'autres animateurs qui ont des questions à poser?
J'aurais voulu revenir sur l'école primaire. Enfin, j'ai bien compris que c'était une école très... Enfin, moi, je trouve ça super intéressant d'avoir des cours d'espagnol, des jeux coopératifs, de faire du pain, etc. Mais du coup, combien vous pouvez accueillir d'élèves dans une structure comme ça? Et le programme, est-ce qu'il est basé aussi sur le programme de l'éducation nationale, un peu, ou comment
alors,
ça se passe?
Oui, à l'école primaire, c'est le programme de l'éducation nationale. On est inspecté tous les ans. Et il y a eu d'ailleurs un très bon rapport l'année dernière de l'inspectrice. La première année, c'était un peu moins chaleureux, enfin un peu moins, parce que c'était la première fois pour elle et pour nous. L'année dernière, ça s'est bien passé, donc on est tenu à faire le programme de l'éducation nationale. C'est juste la pédagogie qui est différente, donc à partir de... qui est centrée autour du projet de l'enfant. Chaque enfant a des vitesses différentes d'apprendre. Et donc il faut trouver le bon moment, le bon ton.
Ça rejoint l'approche permaculturelle
qui va faire déclencher la vie d'apprendre, quoi. Et la nature est quand même quelque chose qui permet de pouvoir faire apprendre. Par exemple, moi au jardin, une des premières activités que je fais quand ils arrivent en septembre, c'est, pour prendre un exemple simple, c'est ramasser les pommes de terre.
D'accord.
Alors quand ils ramassent les pommes de terre, ils vont les mettre dans des seaux, et après, en maths, ils vont apprendre à les compter, ils vont apprendre à les peser, etc. Donc toutes les activités qu'on fait, par exemple au jardin, sont reprises par les maîtresses pour après amener travailler les matières plus académique.
J'entends pas mal les interconnexions de la permaculture avec l'humain au centre, etc. Je trouve ça super intéressant, quoi.
Alors au niveau de ce qu'on apprend, de ce qu'on fait au jardin, c'est on suit bien sûr les principes de la permaculture, de l'agroécologie, et voilà. Donc moi, c'est un gros travail que j'ai à faire, parce que cette transmission, je la faisais jusqu'à là avec des adultes, et j'ai plus ou moins toujours été formateur. Mais voilà, avec les enfants, il faut aussi s'adapter à où ils en sont, etc. Il y a plein de choses. Et vous aviez parlé du nombre d'élèves. Là, on est de par les normes sanitaires, etc., on est bloqué à 19 élèves, et c'est la première année, donc ça fait la troisième rentrée. La première année, on a tourné avec 14 élèves. L'année dernière, c'était 16, et cette année, on arrive à 19.
Et ça a été compliqué de monter une école comme ça, de faire passer...
Excusez-moi, là, j'entends plus rien de votre côté.
Ça a été compliqué de monter une école comme ça, de faire valider ça par l'éducation nationale, le fait que...
Alors, c'est compliqué. Mais c'est une question, on va dire, de volonté. On va dire que Dans l'école à Nature et Savoir, donc on est une quinzaine, on va dire, de qui fonctionnons autour de la gouvernance de la structure. On n'est pas tous au même niveau. Il y a des bénévoles, il y a des salariés, il y a des intervenants extérieurs. Moi-même, je suis auto-entrepreneur et je suis prestataire de service. Mais on est tous les 15 à décider d'un petit peu de comment on doit fonctionner. Et donc ça, c'est sur le modèle des communautés premières et des coguilles notamment. Et c'est un jour, Muriel, donc, qui est la directrice, qui a deux enfants scolarisés et qui, depuis longtemps, réfléchissait à voir ce qu'on pouvait faire de différent. Puis un jour, ça a fait titre, elle nous a présenté le projet dans notre groupe de gouvernance et on a tous dit « Ok, c'est complètement cohérent avec nos valeurs, ce qu'on veut transmettre ». Jusqu'à ce jour-là, c'était avec des adultes, mais c'est très important de pouvoir transmettre ces lois de la nature et comprendre les lois de la nature avec des enfants. Donc, on a dit banco, et donc à partir de là, elle a travaillé d'arrache-pied, soutenue par toute l'équipe, à aller chercher les finances, parce que donc on ne peut pas demander aux parents de prendre en charge l'entièreté du coût. Puisque là, on leur demande seulement 100 euros par mois, ce qui couvre juste le loyer, les charges des locaux. Donc les salaires des maîtresses sont bien au bon vouloir de financeurs privés, de fondations, etc. La première année, on a lancé aussi un crowdfunding sur Ulule et on a obtenu pas le double, mais au moins un tiers de plus que ce qu'on avait demandé. Voilà.
Ok, donc oui, le fonctionnement est sur donation, en fait, et du coup, les bénévoles, ils sont bénévoles, mais les salariés, ça arrive à fonctionner, mais c'est pas dit que ça...
Ben, ça veut dire que tous les ans, il faut aller chercher à nouveau des finances. Ouais. On a la chance d'avoir Éric Julien, qui est consultant en entreprise, son métier, c'est ça. Et donc, qui a un réseau d'entreprises et de fondations, pas illimité, mais assez conséquent. Donc, voilà. Et après, il faut que ce qu'on met en avant leur parle, etc., etc. Donc, c'est un travail d'arrache-pied. Muriel, il travaille toute sa journée. Il y a un groupe de parents qui travaille dessus aussi. Les parents sont très sollicités pour rechercher la première année, par exemple. Le groupe de parents a organisé une soirée de spectacle. Où les intervenants étaient gratuits, ne se faisaient pas payer et qui ont ramené un peu, voilà. Toutes les initiatives sont, parce que on a l'exemple à côté de nous de l'école du Colibri aux Amanins qui, pour la 7e année, fonctionne et ils viennent juste cette année d'être reconnus et d'avoir le poste un poste pris en charge par l'éducation nationale. On a 5 ans à faire avant de pouvoir demander une prise en charge par l'éducation nationale du salaire des maîtresses.
Ouais, le combat est long, mais n'est pas vain.
Cette école, on sait qu'ils se battaient depuis le début, ça y est, ils l'ont eu à la 7e année. Donc, après, si on continue à avoir des rapports comme on a eu l'an dernier de l'éducation nationale, ça devrait aider aussi.
On l'espère pour vous.
Merci et merci beaucoup pour votre intervention. À la suite, on va passer un petit reportage sur l'école primaire sur l'école primaire de l'école de la nature et des savoirs. Le petit reportage que vous mettez sur votre site internet. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose avant de finir cet entretien?
Ce que je veux dire, c'est par rapport au stage qui s'approche le 23. Donc il y a encore des places. On n'est pas encore au 15, donc dans tout le sud-ouest, s'il y a des personnes intéressées, ils peuvent aller sur notre site internet et s'inscrire, en savoir plus, nous appeler au bureau, Alors, j'ai pas mon numéro de téléphone sous les yeux, mais.
Alors, c'est. Donc, on rappelle, donc, c'est le, cette formation de permaculture, approche de la permaculture, du 23 au 26 voilà. octobre 2015, et ça se passera dans le Lot, à Saint.
Lot-et-Garonne.
Dans le Lot-et-Garonne, à Saint.
À Saint-Jaloux.
D'accord. Ouais. Et vous pouvez donc contacter l'école de la nature et des savoirs dans la Drôme au 04 75 21 43 84. On mettra les coordonnées et puis toutes les infos pour ce stage sur notre site internet.
Merci beaucoup.
Eh ben merci beaucoup Jean-Louis Pétourou pour cette intervention et donc que vous serez donc le formateur dans cette formation de permaculture.
Merci à vous, bonne soirée.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Alors maintenant, on va passer, on a entendu parler donc cette école de la nature et des savoirs, et bien, je vous propose un petit reportage sur l'école primaire qui se trouve donc dans la Drôme, à Manglon.
L'école est à Manglon. Dans les Diwa, petite commune à 15 km de Die, elle est assez isolée. Elle est à 1,5 km du village, dans une plaine en contrebas du Vercors. Et elle est dans une bâtisse donc, qui date du 15e siècle, dont l'association École de la Nature et des Savoirs loue une partie. Elle s'adresse à des enfants qui sont en âge primaire, on va dire de 6 à 10 ans, à 11 ans. Des enfants donc, qui sont scolarisés dans les niveaux académiques de CP à CE2.
Et le A qui commence en haut.
On suit les programmes de l'éducation nationale. Les progressions, les paliers par niveau académique. Un élève de CP doit avoir atteint certains objectifs académiques. Et Caminando s'est engagé à suivre ces programmes. Ce qui change énormément, c'est l'ordre de progression.
D'accord.
Le matin, on fait plutôt des choses académiques, du français et des maths. En première partie d'après-midi, on a un temps qui est plus orienté vers le sensoriel ou l'écoute, on lit des contes. On fait plein de choses manuelles. Ça peut être faire du pain, faire un atelier bois, travailler au jardin, etc. Et on retravaille que la seconde partie de l'après-midi sur un travail plus centré sur l'intellectuel.
Comme elle est déjà bien mouillée, on va la poser comme ça. On va faire carrément un nid de cailloux.
Comme ça. Ah,
comme ça, tu es sûr de trouver des patates.
Il faut traverser quoi ? C'est quoi ça ?
L'océan Atlantique.
Donc on traverse là ?
Sinon, en termes de repères dans la semaine, on a vraiment des choses qui bougent pas. Certains débuts de matinée qui sont dédiés à des matières, comme l'apprentissage d'une langue étrangère. Caminando, c'est l'espagnol.
Et c'est là, si ça est capable. Oui, je suis capable.
Aquí las letras gruesas. Un huevecito. Más pequeñito.
Un atelier philo de philo. Un atelier qu'on appelle Noticias, qui ressemble un peu à un coin de neuf à la Freinet. En fin de semaine, un conseil du vivre ensemble aussi, en après-midi, avec des temps de responsabilité ou des temps de jeu. Et en tout cas, on alterne toujours les activités qui font appel aux intelligences multiples et pas seulement une activité qui est centrée sur les maths et le français.
On le met en hauteur, pourquoi ?
Pour qu'on fasse les oiseaux, parce que tout ce qu'il faut pas, le chat, mais il les mange.
Voilà.
À Caminando, une des spécificités, c'est le travail en coopération. S'aide, mutualise, partage, collabore pour apprendre. Et en fait, ils s'échangent des stratégies. Comment tu fais pour retenir ? Comment tu fais pour apprendre ça ? Comment tu retiens par cœur ?
Nous on aura ramassé, alors nous on va le mettre dans la caisse. Et qu'on a ramassé parce qu'après, pendant le cours, vous allez les peser pour voir, calculer les poids.
Il a
On s'est dit, il faut que le midi, on puisse déjeuner à l'école, mais ça ne peut pas être pris en charge par l'école, puisque les normes, encore une fois, d'hygiène sanitaire sont trop lourdes, et nous, on n'avait pas les moyens aussi d'installer une cuisine collective. Donc, en fait, on a sorti ce temps de repas de l'école elle-même, et c'est les parents qui les prennent en charge, et l'école dit par contre que ça fait partie du processus pédagogique, c'est-à-dire de la journée. Et la manière dont se déroule le repas participe pleinement de la journée pédagogique. Donc ça veut dire que les enfants, ils prennent une part active, ils font pas semblant, mais ils font réellement la mise en route du repas, c'est-à-dire mettre la table, couper le pain, installer, etc. Et ils ont aussi à leur charge de faire leur vaisselle, de ranger et du ménage. Ce qui me plaît dans cette idée, c'est que, on dit Caminando est ancré dans l'ENS qui est elle-même ancrée dans les lois du vivant, en alliance, le don et l'émergence, et la cantine à Caminando, elle fonctionne sans échange financier. C'est-à-dire qu'une famille donne pour 15 et reçoit pour 15 repas.
Voilà, donc vous venez d'écouter un petit reportage sur l'école de la nature et des savoirs qui se trouve dans la Drôme. Alors Norbert, tu voulais nous parler de deux traditions Kogi qui te semblent particulièrement, qui sont très importantes pour les Kogi et puis qui est assez représentative de leur de l'état d'esprit des Kogi. Donc c'était d'abord leur rapport aux étoiles.
Eh oui, 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 un rapport sur les étoiles. Hein. On a tous un peu la tête dans les étoiles, des fois, et les Indiens Kogi aussi. D'ailleurs, c'est ce que nous dit José Gabriel, suite à une tournée de conférences, donc, il nous explique que les étoiles, les anciens me racontaient qu'il n'y avait pas de gens au début, même pas nous. Les étoiles étaient les premières à être là. Elles étaient dans le sol, et elles sont montées dans le ciel, quand la vie est apparue. Pour nous, les étoiles sont comme des gens, des énergies qui nous surveillent de là-haut. Elles regardent les enfants pour voir si on se comporte bien. Pour nous, la vraie vie est dans les étoiles. Les étoiles ont beaucoup de sens, il y en a des petites et des plus grandes, et chacune a son histoire. Nous connaissons les étoiles par nos mamus, qui sont éduquées depuis leur toute petite enfance et pendant 18 ans par les anciens mamus. Nous avons des grilles de lecture et des codes de déchiffrage. Certains de nos mamus passent de très longues années à observer. Cela leur permet de voir et de comprendre des choses pas forcément visibles, mais qu'ils assemblent par reconstitution de plusieurs observations. Notre connaissance est le résultat de 4000 ans d'observation et de transmission. Voilà un peu ce que dit donc ce Indien Kogi sur les étoiles.
Alors il y a un deuxième thème que tu voulais aborder, c'est le fameux poporo, hein, c'est cet objet que les Kogi, quand on regarde les conférences ou quand ils, oui, les reportages, ils sont tout le temps en train de trifouiller quelque
après
chose.
Après ce poporo, oui, oui, ils l'ont même quand ils viennent en Europe, effectivement, ils ont toujours le poporo avec eux, ça semble un petit peu bizarre, effectivement.
C'est une sorte de hocher avec un bâton et qui, oui, s'emboîte l'un dans l'autre.
Voilà, hein. C'est ça, c'est un petit peu ça. Je vais vous donner l'explication, c'est plutôt Juan qui va vous la donner. Cet objet a beaucoup de significations symboliques. Donc la première est qu'il symbolise notre épouse.
Hein? Alors c'est que les hommes qui l'utilisent.
Apparemment, j'imagine. Oui. T'es pas marié, Angelo, non? Bon, ben, pas de poporo pour toi. Les deux dimensions, masculine et féminine, sont dans le même objet. Il est remis à chaque jeune garçon quand il passe de l'adolescence à l'âge adulte vers 18 ans. La cérémonie de remise de son poporo dure 4 jours et 4 nuits sans dormir. Hein, avis aux amateurs qui voudraient passer au poporo. Hein, Benjamin ?
Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Juste un don d'objet ou il y a de la pratique ?
Ah bah ça, dans ce cas-là, tu te débrouilles. Hein.
Ah, d'accord.
Là, je peux pas m'avancer plus que ça.
Il y a beaucoup de pratique. Après 4 jours et 4 nuits, tu dois être vraiment très très fatigué quand même.
Ben bah, oui. Après, tu joues plus trop, Poporo, quoi. On lui explique donc l'usage de cet objet, ainsi que son nouveau rôle d'adulte dans la communauté. C'est une obligation qui vient des lois de la mère que de faire ce rituel. Donc, on est tout à fait dans un rituel. Alors, avis aux amateurs de Poporo. D'ailleurs, nous allons vous donner donc quelques informations sur notre site, puisque les Indiens Kogi seront à Toulouse le 19 octobre pour un spectacle. C'est pas eux qui vont faire le spectacle, mais ils seront là quand même avec Eric Julien.
Voilà, c'est un spectacle de bienfaisance pour financer le projet Zigoneshi et puis toutes les actions de cette association Chengdu Kua que tu nous as parlé.
Exactement, puisqu'il y a effectivement il y a beaucoup de projets. Il y a un projet aussi de réintroduction d'un perroquet qui avait totalement disparu donc de Colombie, et les Indiens d'ailleurs l'utilisent pour leurs parades. Ils ont besoin de certaines plumes qu'ils ont dû chercher en Amazonie chez un chef indien. Qui leur a donné donc ces fameuses plumes.
Les terres qu'ils ont pu récupérer, où il y a de nouvelles familles qui se sont installées, elles étaient en mauvais état. Elles avaient un peu souffert de leurs précédents exploiteurs, quoi.
Effectivement, ils ont eu beaucoup de soucis parce qu'il y a aussi une très forte déforestation, et donc les Kogi, eux, y remettent donc de la vie. Donc en général, c'est sur 10 ans pour de nouveau remettre une terre en état. C'est un peu leur façon de fonctionner.
Alors, pour finir, tu voulais nous parler d'une autre initiative qui ne concerne pas que les Kogi, mais
oui, ça ne concerne pas que
plusieurs peuples d'Amérique du Sud.
Oui, c'est plusieurs peuples d'Amérique du Sud. Donc, c'est une alliance pour la protection du climat. Pourquoi ? Parce que tous ces gens ne croient pas trop, en fait, à toutes ces réunions qui sont faites au travers du monde, qui promettent monts et merveilles pour la protection du climat et qui en général ne débouchent pas sur grand chose. Donc cette année, en avril 2015 à Brasilia, donc, il y avait environ 1500 indigènes qui étaient rassemblés donc sur l'esplanade des ministères pour défendre leurs droits élémentaires menacés. Et donc il y avait différents donc gardiens. Donc il y avait Raoni du peuple Kayapo, le gardien Davi Kopenawa du peuple Yanomami, les Kasikaritana et Pirakuman du peuple Yawalapiti, et les Kasik Afukaka et Tabata, peuple Kwikuro, chef traditionnel d'Amazonie, détenteur de grands savoirs, qui ont donc un scellé impact et établi les bases d'une alliance internationale ayant pour ambition de mobiliser à grande échelle pour concevoir un véritable plan de sauvetage de la planète qu'aucun sommet international jusqu'à présent réussi à établir. Voilà un peu l'objectif de ces grands chefs indiens. Ça fait plaisir, n'est-ce pas ?
Qui se motivent tous ensemble à essayer de se faire entendre, c'est bien.
Oui, je trouve ça super bien, oui, effectivement. Alors, on pourra vous donner quelques infos à ce sujet.
Merci beaucoup Norbert pour ce sujet très intéressant qui nous transporte dans un autre monde, une autre cosmogonie, une autre spiritualité, un autre rapport à la nature.
C'est le chemin des possibles tous ensemble.
Et d'ailleurs à ce propos, on a passé un petit extrait en début d'émission, je vous invite à écouter cette émission de France Culture sur les docks, qui avait fait un épisode sur qui se passait chez les Indiens Kogi, la terre-mère, et donc qui date de 2013, un documentaire d'Élise Andrieux et d'Ifi Mariani, et qui raconte l'histoire d'Éric Julien, notamment de ses pérégrinations là-bas en Colombie. Et on va finir par un petit extrait de ce reportage. Tu voulais aller ajouter quelque chose ?
Si je peux ajouter quelque chose, c'est que je souhaite qu'on aille vers le meilleur tous ensemble, qu'on soit indien ou non indien, qu'il y ait effectivement un pacte entre nous pour faire avancer ce monde, quoi.
Dans le respect de l'homme et de la nature.
Exactement.
Donc on finit avec cette parole Kogi, merci.
Moi je me demandais juste si c'était possible d'aller les rencontrer, ces Indiens Kogi.
Oui, tu pourras les voir le 19 octobre, ils seront à Toulouse. Il y aura 3 Indiens Kogi pour le spectacle. Il y aura une conférence de presse à 15h avec Eric Julien.
Okay.
Donc là maintenant le lieu précis je ne l'ai pas, mais on va le mettre
Sur le site internet
de Vivre en Commage.
Ok. Et en Colombie, on peut y aller aussi
Oui, il y a quelque chose en préparation, effectivement. Il y aura 2 hectares d'accueil donc pour les gens qui veulent aller voir. Et il y aura 6 hectares, c'est déjà en cours. Hein. Il y a déjà une installation de Kogi qui vont, eux, s'occuper donc, de recevoir les gens. Et bon, il faut parler espagnol, je pense, hein, ou venir avec un traducteur.
Cool.
Hein, cool.
Cool.
Tu me feras mon traducteur, Félix.
Oh, on ira ensemble, on emmènera plein de gens.
Vous pensez, parce que nous n'avons pas de machine, pas d'argent, que nous ne sommes rien. Mais la vie, ce ne sont pas les machines. C'est l'eau, le vent, la terre, les pierres, les montagnes, les forêts. C'est ça la vie. C'est grâce à cela que nous vivons. Les gens sont aussi ça. De l'eau, de l'air, du vent, des roches. Et chacun est responsable de cela pour lui et chez lui. Chez vous, vous pensez que vous êtes plus grand, plus fort que la nature. C'est une erreur. Il y a une seule loi de la nature qui est la même pour tous. Nous pouvons protéger la nature comme des enfants aiment leur père et leur mère. Sinon, la terre va maigrir. Elle va tomber malade. Et alors, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous manger? Quelle eau allons-nous boire? Si nous ne construisons qu'un monde artificiel, la terre va mourir. Si elle meurt, alors nous allons tous mourir. Car la terre, c'est la mer, c'est la vie.
Comminges, l'émission de radio.
Vivre en Comminges, l'émission de radio.
Sur les ondes.
Vivre en Comminges.
Sur les ondes de Radio Coteau.
104.5
ou 97.7
FM.
Et en direct sur le web.
Vivre en Comminges, l'émission de radio.
Tous les premiers mardis du mois.
À 18h.
Actu local, interview,
agenda, musique.
Vous saurez tout sur le Comminges.